Bonsoir. Bonsoir, merci d'être venu et merci et désolé parce que je vais vous parler d'ennui. Alors promis, ça ne durera pas longtemps et surtout, surtout, je vais vous parler de sexualité. Ça fait 15 ans que je fais ça. Dans mon expérience, les gens lisent, les gens écoutent. Dans votre cas, ils ne partent pas en courant. Alors la sexualité, si vous lisez la presse, vous êtes sans doute tombé récemment sur pas mal d'infos catastrophistes sur la question. Le nombre de rapports sexuels décroît dans tous les pays occidentaux, même les jeunes font moins l'amour. Les femmes commencent à s'ennuyer au lit au bout d'un an de couple seulement. Et on pourrait se dire, quelque part, c'est fatal, c'est normal. À un moment, la sexualité, on a fait le tour de la question. D'accord, pourquoi pas. Mais si c'était vrai, alors comment ça se fait que ça fait des millénaires que les artistes peignent des nus et que ceux de la statue africaine ou du manga japonais ou de la Renaissance n'aient rien à voir les uns avec les autres? Ça veut dire qu'avec les mêmes organes, depuis des millénaires, on peut faire des choses complètement différentes. Dans ces conditions, pourquoi on s'ennuie? En tout cas, en sexualité, cet ennui porte un nom. On parle de sexe vanille. Vanille, parce que c'est le parfum qui met un peu tout le monde d'accord, c'est quand on n'a pas trop d'idées, quand on n'aime pas trop l'aventure, quand éventuellement on n'aime même pas trop la nourriture. Ça peut faire penser à la zone blanche, et c'est vrai que ça la recouvre un peu. C'est l'ensemble des pratiques normales, légitimes. C'est le missionnaire du samedi soir, et c'est là qu'on commence à s'ennuyer. Heureusement, la presse, et les médias en général, vous donnent plein de super conseils pour pimenter votre vie sexuelle. Et c'est des vrais. Il se trouve que 90% de ces conseils sont basés sur la peur, la douleur, la contrainte, l'humiliation, la grossièreté, la précipitation, enfin une forme ou une autre de réduction de soi et ou de ses partenaires. Et oui, on appelle ça le sexe pimenté, c'est pas pour rien, ça fait mal. Et cette douleur, elle existe, on l'intègre. Un tiers des femmes a eu mal pendant son dernier rapport vaginal, les trois quarts des femmes ont mal pendant un rapport anal. Les deux tiers d'entre vous, ce soir, ont déjà eu des fantasmes sadomasochistes, je vous laisse vous reconnaître. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. On n'est pas là pour distribuer des bons ou des mauvais points. La douleur nous apprend des choses sur nous-mêmes, sur le monde, elle fait partie de la condition humaine. Cependant, ce sont des émotions désagréables. Ce sont des émotions que d'habitude, vous cherchez à éviter, que vous passez peut-être même une énergie prodigieuse dans votre quotidien à éviter. Et pourtant, en sexe, on nous dit que ça n'a pas de conséquences. Comme si, quand vous fermez la porte de la chambre à coucher, d'un seul coup, ça ne veut plus rien dire. Bien sûr que ça veut dire des choses. Bien sûr que si vous avez vécu un traumatisme ou un abus, vous faire étrangler par surprise au lit va avoir des conséquences. Bien sûr que si votre couple est fragile et que vous allez en soirée des échangistes, ça peut avoir des conséquences. Et peut-être des conséquences positives, d'ailleurs. Mais en tout cas, quand on vous dit que vous pouvez rejouer les 120 journées de Sodome au lit et que ça n'aura pas de conséquences, bien sûr que ça aura des conséquences. Et en plus, ça nous met face à un espèce de paradoxe qui est qu'on nous répète que la sexualité sert à donner du plaisir, à prodiguer du bien-être, voire du soin. Et pourtant, on se fait mal. Pourquoi ? À ce sujet, je voudrais vous parler d'une expérience qui s'est produite en 2014 à l'Université de Charlottesville, en Virginie. Le professeur Timothy Wilson rassemble quelques dizaines d'étudiants et leur donne la tâche la plus simple du monde, rester 15 minutes seuls dans leurs pensées, dans une pièce vide. Vide à l'exception d'un bouton sur lequel ils peuvent appuyer et qui va leur envoyer une décharge électrique. Ils le savent. Ils ont signé un papier disant qu'ils préféraient donner de l'argent plutôt que subir un choc électrique, ce qui peut se comprendre. Mais, 15 minutes, c'est long. Et du coup, les deux tiers des étudiants hommes, un quart des étudiantes femmes ont appuyé sur le bouton. Un des étudiants a appuyé 190 fois sur ce maudit bouton. Ce qui signifie que pas mal d'entre nous traitent la douleur comme une forme de loisir, et que quoi qu'on en dise, le masochisme féminin n'est peut-être pas si féminin que ça. En tout cas, à ma connaissance, aucun des étudiants de l'expérience de Wilson n'a tout simplement ouvert la porte pour sortir de la pièce, si c'était si insupportable de rêvasser pendant 15 minutes. Ils n'y ont pas pensé, parce que je pense qu'à ce moment-là, ils se sont sentis obligés de suivre un script, le script professoral. De même que nous, en sexualité, on suit un script qui s'appelle le script psychosexuel. Si vous êtes hétéro, ça veut dire que vous allez vous embrasser, vous caresser, éventuellement avoir du sexe orogénital, pénétration, éjaculation, extinction des feux. Vous pouvez bouger un ou deux trucs là-dedans, mais pas tant que ça. Parce que dès que vous sortez de cette zone qui est la zone de la sexualité vanille, vous rentrez dans le sexe pimenté. Et si vous n'arrivez pas à penser à des alternatives, si vous êtes dans l'expérience de Wilson qui est soit vanille, soit piment, soit ennui, soit choc électrique, ce n'est pas de votre faute. La culture sexuelle dont on a hérité, elle fonctionne un petit peu sur ces codes. Et c'est dur de changer une culture. Ça donne une carte du tendre qui ressemble à ceci. Alors on fait quoi quand on a hérité de ça? Eh bien, on prend la carte du tendre, on la retourne, on prend la culture, on regarde là où ça coince, là où ça gratte, là où justement ça fait mal. On se dit que finalement, si le sexe n'était pas si tabou, on pourrait en parler, on pourrait transmettre, on pourrait faire autre chose. Et on prend tous les conseils des magazines et on se demande ce qui se passe si on faisait exactement l'inverse. Parmi les conseils qu'on vous donne les plus fréquemment, surtout avec le succès de 50 Shades of Grey, il y a le BDSM, bondage, domination, sadomasochisme. Super. La contrainte rend créatif. Les personnes qui pratiquent le sadomasochisme sont très stables mentalement. Mais, à ma connaissance, on n'a pas encore trouvé les moyens de vraiment libérer complètement les corps, physiquement, émotionnellement. Par exemple, on fait l'amour dans une chambre à coucher, dans l'endroit où généralement on dort, c'est peut-être pas la meilleure idée, peut-être qu'on devrait avoir du mobilier sexuel. Au niveau du sadomasochisme, c'est pareil, c'est très intéressant, mais si on était moitié aussi créatif pour inventer des manières de s'effleurer, de se caresser, de se câliner, qu'on en a pour se mordre, se griffer, se taper dessus, on aurait peut-être résolu les problèmes de paix dans le monde. Quant à l'imaginaire de la domination, alors là, on se le trimballe depuis au moins le rapt des Sabines, et ça nous pose des problèmes, parce qu'évidemment, bon, c'est riche, mais ça veut dire que les hommes se retrouvent toujours en charge, voire traités d'importuneurs, et les femmes font l'étoile de mer. Il y a une seule personne qui bosse dans la chambre à coucher, du coup, le répertoire sexuel est divisé par deux, et on s'ennuie. Autre conseil qu'on vous donne fréquemment, la pénétration, toujours plus de pénétration. D'accord, mais de quelle pénétration on parle? On peut pénétrer avec autre chose que des pénis, avec des doigts, des objets, des bananes, des bougies. On peut pénétrer les pénis et prendre du plaisir comme ça. Les hommes peuvent s'auto-pénétrer. On peut faire autre chose avec un pénis que de la pénétration. Et même la manière dont on parle de la pénétration est problématique, parce qu'on l'associe à la domination. Et c'est exactement ce qui se passe quand on dit qu'il y a des partenaires actifs et des partenaires passifs. Sauf si la personne est inconsciente ou morte, il n'y a pas de partenaire passif, parce que... Et je ne vous le souhaite pas. Parce que recevoir un corps étranger dans son corps demande des compétences. Il faut connaître sa musculature, sa psychologie, il faut comprendre éventuellement ses lubrifications ou en rajouter. Et c'est pareil, s'il y a des partenaires passifs, alors il y a une personne de moins dans la pièce. Et c'est moins drôle. Alors du coup, on peut rajouter des personnes dans la pièce. C'est un autre conseil qu'on vous donne. Les orgies, les plans à trois, les soirées échangistes, très bien. Mais certains d'entre nous ne se considèrent pas comme échangeables, ne considèrent pas leur dignité comme échangeable. Et on pourrait se dire que plutôt que de faire le même script sexuel avec 1000 partenaires, on pourrait faire 1000 choses différentes avec un partenaire qui aurait mérité notre confiance. Parce que soyons honnêtes, il se passe rarement des choses grandioses au lit avec des personnes qui ne vous connaissent pas et qui n'ont pas envie de vous connaître. On dit toujours que le sexe avec des inconnus est plus risqué et plus aventureux, mais c'est pas vrai. Avec un inconnu, on peut pas prendre de risques. Conseil suivant, le dirty talking, le parler sale. Utiliser la grossièreté et l'insulte pour se donner du cœur à l'ouvrage, ce qui est déjà un peu bizarre. Je veux bien, ça donne un vocabulaire fleuri, tout ça ajoute du vocabulaire, c'est toujours bien. Mais, en français, on n'a toujours pas de langage pour parler de nos fantasmes, de nos vulnérabilités, pour donner du feedback qui ne soit ni médical, ni infantilisant, ni justement grossier. Et c'est pareil quand on parle du corps et de l'anatomie. On se divise entre femmes clitoridiennes, vaginales, utérines, entre asexuelles, demi-romantiques, orgasmes prostatiques, mon Dieu, tout ça est quand même attaché à un seul corps. Et si on en parlait différemment, si on arrêtait de se découper en morceaux comme ce pauvre porc, alors on pourrait faire l'amour à des êtres humains, plutôt qu'à des orifices, plutôt qu'à des terminaisons nerveuses, ou plutôt qu'à des sociotypes. Et ce serait pas mal. Dernier conseil avant de passer à autre chose, le quick sex, le petit coup vite fait. Alors ça permet de rentrer dans les statistiques facilement, hein, c'est sûr, si vous faites ça en 30 secondes, durée du rapport moyen 5 minutes 40, soit dit en passant, vous allez réussir à avoir un ou deux rapports par semaine. Mais si à de la place vous preniez 3 heures, par exemple, tous les 2 mois, alors vous seriez obligé d'inventer des nouvelles manières de vous toucher, vous seriez obligé d'être créatif, et à mon avis, vous auriez de bonnes surprises. Alors, au vu de tout ce que je viens de vous raconter, on pourrait avoir l'impression de vivre une époque de désenchantement sexuel. On pourrait se dire que c'était mieux avant le sida. On pourrait se dire que c'était mieux en mai 68, la génération de mes parents qui sont juste là. Que nenni ! chers parents. C'est beaucoup mieux maintenant. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Non, aujourd'hui, on vit une époque d'ébullition politique et technologique qui rend des choses qui étaient hier impossibles, possibles. Quelque chose aussi bête que le vibrateur. Ça fait plus d'un siècle que ça existe. Et ça donne accès à des plaisirs qui, jusqu'à récemment, étaient littéralement du domaine de l'inhumain. Je pourrais faire cette conférence en mettant une prothèse de pénis sur le front. Vous m'écouteriez peut-être un peu moins, mais je pourrais le faire. Je pourrais aussi prendre des hormones pour transitionner. L'anatomie n'a jamais été le dessin, mais l'anatomie a beaucoup conditionné la manière dont on a pensé la sexualité. Aujourd'hui, tout ça, c'est plus vrai. Et ce que je veux dire avec tout ça, c'est que plutôt que d'être blessé, constamment blessé par la sexualité, on pourrait exiger d'être choyé. Parce que c'est comme ça qu'on peut tomber la garde. Parce que c'est comme ça qu'on peut être vulnérable, parce que c'est comme ça qu'on peut ressentir le maximum d'émotions, et c'est comme ça qu'on peut se sentir le plus immensément, intensément humain. Et ça commence, non pas en réécrivant le passé, encore moins en le censurant, mais en réécrivant le présent. Par exemple, en arrêtant de répéter que le sexe est meilleur quand il fait mal, ou meilleur quand il fait un peu mal. Il suffit d'ouvrir le dictionnaire. Le sexe est meilleur quand il fait du bien, et encore meilleur quand il fait encore plus de bien. Par chance, un script, ça se change. La culture sexuelle, et la culture en général, n'est pas un machin suspendu au-dessus de notre tête, contre lequel nous serions impuissants. Nous sommes la culture. Rien ne nous empêche de créer aujourd'hui, maintenant, à l'entracte, une sexualité enthousiasmante, passionnante. Attendez un instant. Une sexualité enthousiasmante, passionnante, qui ne fasse de mal à personne et qui ne transige jamais en rien sur sa dignité. Rien ne nous empêche de créer les représentations culturelles qui vont servir à prendre le script dont on a hérité, le transformer et en donner un autre aux futures générations qui sont sorties de la pièce. Rien ne nous empêche de faire tout ça, et j'en suis absolument certaine, parce que ça fait 15 minutes que vous m'écoutez parler de sexe, que personne n'a protesté, que personne ne s'est endormi, je crois, que cette vidéo finira sur Internet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens de transmettre, d'apprendre, d'inventer, de créer. C'est-à-dire qu'on a les moyens de créer une utopie sexuelle. Et là, on a encore plus de chance, parce que la sexualité est l'un des rares, peut-être l'un des seuls domaines où l'utopie est possible, où on peut donner le meilleur de soi-même. Et loin des imaginaires de dégradation, de souillure, de pulsion de mort qu'on lui associe constamment, la sexualité demeure l'espace physique et mental où nous exprimons notre désir, notre amour, notre tendresse, notre gratitude, et j'insiste, notre dignité. Pour faire advenir cette utopie, il suffit de le décider. Et en venant ce soir, vous auriez pu rester chez vous, en venant ce soir, vous avez déjà participé, vous avez déjà collaboré. Je vous remercie infiniment d'être venu, et puis pour les travaux pratiques, par contre, je vous laisse faire. Merci.